Eh bien, ça s'entend, hein. Nous sommes au bord de l'eau. La Bourne, d'ailleurs, qui a un bon débit, elle n'est pas peut-être grosse comme elle peut l'être au printemps, mais elle a un petit débit un peu soutenu. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et d'ailleurs, vous faites partie de l'association de pêche qui se tient au bord de l'eau, auprès du public, à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau.
Bien, on a été sollicité par l'association qui s'occupe de l'organisation de cette journée, là, pour être présent. On est des usagers de l'eau, nous, par nature. Donc on a acquiescé à cette demande en présentant un petit stand avec du matériel pédagogique et puis éventuellement des démonstrations pour la pêche.
Voilà. Donc en lien avec le musée de l'eau, hein, c'est un écho avec le musée ?
Complètement, oui. Complètement, oui. On fait partie de cette organisation pour la journée là. Voilà.
Et là, c'est voué aussi à sensibiliser. Bon, certes, il y a le côté un peu ludique et sympathique de la pêche, mais aussi d'autres aspects autour de l'eau.
Ouais, les APPMA, on a un peu vocation à faire découvrir les milieux aussi. On fait un peu de pédagogie auprès des enfants, surtout. Ce sont ceux qui vont prendre le relais de nos missions. Voilà.
Alors, comment on peut pêcher dans la Bourne, d'ailleurs ? Il y a plusieurs manières de pêcher
Alors, il ne faut pas pêcher à l'explosif, par exemple. C'est interdit, ça. Mais on peut pêcher un peu à tout. Ouais. Et tous les modes de pêche sont autorisés. Ouais. Et puis, tout marche. Quand ça mord, tout marche.
Ah oui, d'accord.
Okay. Ouais, mais quand ça mord pas, il n'y a rien qui va.
Ah oui. Au moins, on est prévenu. Il y a aussi bien, de la communication sur la pêche de manière générale. Je vois la pêche en Isère. Vous êtes donc relié au département.
Oui, on fait partie d'une fédération départementale qui, elle, fait partie d'une fédération nationale. Et puis, on a des dépliants là, à l'usage des pêcheurs et du public. Hein. C'est aussi du matériel pédagogique, de découverte des milieux. Voilà.
Quelque chose d'assez nouveau, la découverte des milieux, non ?
Non, pas du tout, non. On fait ça depuis longtemps.
Ouais. Ah oui,
on a un peu cette vocation à faire de la pédagogie sur la découverte. Ouais. On a une mission de gestion des milieux naturels officiellement.
Ah oui,
donc par nature, on essaye de faire partager le souci de protection des milieux.
La APPMA, c'est une association de pêche et de protection des milieux aquatiques. Voilà. Donc on est là aussi pour la protection du milieu. Donc on essaye de sensibiliser les gens à l'eau, parce que l'eau, ben, c'est un grand défi, mais plus ça va, moins on en a. Et il faut que les gens prennent conscience du réchauffement climatique et de tous les problèmes qui sont liés à ce réchauffement climatique. Donc ben, il faut sensibiliser les gens à essayer de comprendre le besoin que l'on a en eau, parce que quand l'eau vient à manquer, l'homme est en danger hein, derrière, hein, c'est ce qui se dit. Voilà, donc on est là pour sensibiliser les gens au milieu, puis à leur faire découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dans la rivière. Et puis bon, souvent aussi, c'est associé l'association de pêche à faire découvrir aux jeunes, aux enfants, qui seront notre relais pour plus tard. Voilà.
Mission éducative avec l'APPMA, dont vous êtes le président,
voilà,
Bernard, n'est-ce pas ?
Oui, je suis le président de cette association depuis cette année. J'ai pris le relais d'un copain qui était là avant, hein, qui a passé la main. Ça faisait 5 ans ou 6 ans qu'il s'en occupait de l'association. Puis bon, bah, Antoine, lui, c'est une vieille figure du coin. Hein, donc il a réintégré l'association. Il n'était plus là pendant quelques temps. Et là, il est revenu avec nous. Et c'est bien qu'on ait quelqu'un du coin pour l'association, quoi, c'est sympa. Donc voilà, c'est un peu notre rôle aujourd'hui, ben, c'est de protéger ces ressources-là. Et puis il ne faut pas oublier que la Bourne, là, c'est une des plus belles rivières de France. Hein. On est dans un cadre qui est quand même exceptionnel. Et puis Pont-en-Royant, les maisons suspendues, tout ça, c'est quand même formidable. Quoi. Déjà, on peut s'asseoir et regarder déjà. Ça nous suffit déjà presque pour être sensible au coin.
Voilà. Vous êtes bien loti en matière de paysage, voilà. De pouvoir découvrir cette Bourne, y pêcher. Vous vous rendez compte au fur et à mesure des années, côté débit, qu'il y a du changement ?
Ça change, bien sûr, ça change. Maintenant, on a souvent des crues qui sont en hiver, au mauvais moment, parce que bah, il fait trop chaud l'hiver. Normalement, l'hiver, pendant les 4-5 mois d'hiver, le débit de la Bourne est très bas. C'est là que les truites frayent.
Oui.
Là, l'année passée, on a eu une crue exceptionnelle. L'eau est montée à 5 mètres de haut à l'échelle à Pont-de-Manne, là-bas, que je n'avais jamais vue. Et au mois de janvier, au moment où les truites venaient de frayer, ça bousille tout, ça ravage les milieux. Et c'est fait climatique, là, comme ça. C'est pas très bon pour le renouvellement du poisson, parce que les truites qui ont frayé, ben, ça a tout dévalé. Quoi. Donc il y a un changement. J'espère que les poissons qui sont là depuis des millénaires vont s'adapter. C'est des poissons qui sont adaptés. Hein. C'est des poissons sauvages hein, qu'on a dans la Bourne. C'est une rivière exceptionnelle. Hein. Et ben, on se fait quand même un peu de soucis quand même. On essaie de mettre en place des mesures pour protéger le poisson. Notamment, on voudrait peut-être faire augmenter la taille légale de capture pour leur permettre de rester plus longtemps dans la rivière pour reproduire un peu plus. Voilà, on va essayer de faire des mesures comme ça pour sauvegarder un petit peu ce qui est le patrimoine qu'on a là, qui est magnifique. Il ne faut pas oublier que notre association de pêche, là, c'est une des plus vieilles associations de pêche de France.
L'association, je pensais que c'était l'Isère.
Non, association de... Comment dire, de
la première inscription dans les associations.
Les associations, association loi de 1901. Voilà. Notre association, elle date de 1901.
Oui, oui,
elle a été faite tout de suite dès le début. C'est une des plus vieilles associations loi de 1901 qui existe en France. Voilà. Donc c'est aussi ça.
Elle porte le numéro 1 au registre des associations de l'Isère.
Ça c'est quelque chose d'assez
quelque
incroyable.
Chose qui est bien, quoi, qui est sympa. Donc ça fait partie de ce qu'on doit protéger. Voilà.
Alors vous évoquiez un peu les crues qui peuvent être dévastatrices, notamment en période de frayage, et les niveaux bas aussi, ça peut être...
Les niveaux bas de l'été, alors on a eu de la chance, c'est que malgré la sécheresse qu'on a eue, malgré l'été exceptionnel qu'on a eu l'année passée, il y avait toujours de l'eau dans la Bourne. Il y a quelques rivières qui ont séché, le Méaudré qui a séché par endroits, le Bournillon. On a eu un moment où c'était critique et puis il y a eu une petite pluie, ça y a permis de sauver, mais c'est rare de voir des niveaux aussi bas. Alors la Vernaison a souffert, la Lyonne, tout ça. Et nous, la Bourne, ben, je ne sais pas d'où elle sort l'eau, mais il y avait toujours de l'eau quand même l'été. C'était... Et puis toujours de l'eau froide, elle est à 14 degrés maximum l'été. L'eau. Donc ça, c'est vrai que ça favorise la truite, hein, avec des températures comme ça.
Elle collecte un bon nombre de petits réseaux, la Bourne, non ?
Alors, la Bourne, le bassin versant de la Bourne, il fait 810 km². Le bassin versant de la Vernaison, il est à peu près identique, 800 km² aussi. Et la Bourne a beaucoup plus de débit que la Vernaison, parce que comme c'est le massif calcaire, eh bien, il y a des failles, il y a des endroits où l'eau qui tombe sur le bassin versant de la Vernaison, donc au-dessus, vers... la chapelle en Vercors, tout ça. On a des résurgences qui sont au-dessus de Bournillon, à Arbois. Les sources d'Arbois viennent...
Même surfondir, il y a des réseaux qui coulent jusqu'à Bournillon.
Des réseaux qui reviennent jusqu'à Bournillon. Mmh. Et ce qui fait que la Bourne, eh ben, on a la chance. Cette rivière qui n'a pas manqué d'eau jusqu'à maintenant. Alors j'espère que cette année sera pareil, malgré le peu de neige qu'on a en montagne. Et j'espère qu'on arrivera à passer l'été, parce que ça nous fait peur quand même. Hein. Ça nous interroge beaucoup, hein, ces sécheresses à répétition, et on voit au niveau en France, en général, c'est bas de partout, hein. Ça fait peur. Alors il faut espérer que ça soit passager, mais alors je connais des gens qui font du jardinage et qui avec des pluviomètres, contrôlent beaucoup les débits et les pluies et tout ça, et ils nous disaient, ben, sur les 20 dernières années, on avait une mauvaise année, 5 années de bonnes avec les pluies, et après c'était 2 années de mauvaises, 3 de bonnes, et maintenant, là ça fait 5 ans, là, c'est une année sur deux où c'est pas bon, où on n'a pas assez d'eau qui tombe, pas assez de neige en montagne, tout ça. Il faut espérer que les gens prendront conscience et qu'on arrivera à passer le cap de ce réchauffement climatique, mais c'est général sur la planète. Hein.
Et depuis que l'association existe, maintenant depuis 122 ans, on imagine bien, il y a eu des choses qui ont été notées dans le temps où vous pouvez vous référer à l'évolution de...
Oui, alors après, on a des archives, hein. On a des archives à l'association où on voit la façon dont les pêcheurs géraient la rivière avant, où ils alvinaient, ils mettaient des poissons. Alors ils se sont fait plein de choses, hein, ils se fait dans la, même parfois des poissons qui n'avaient même pas lieu d'être là dans la rivière, qui ont été introduits, mais ils n'y restent pas. Parce que le milieu ne leur convient pas. Quoi. Donc voilà.
Ouais, c'est un peu les apprentis sorciers là.
Oui, ça, on a tous joué à ça. Même aujourd'hui on continue. Quand on essaye de modifier des réglementations pour augmenter la taille légale de capture, tout ça pour essayer de garder plus de poissons dans la rivière, c'est un peu une loterie. On essaie des choses, mais on ne connaît pas tout. Hein. C'est difficile, même les hydrobiologistes qui s'intéressent à ça, tout ça, ils n'ont pas des réponses sûres à nous fournir. On est là, il faudrait qu'on vive sous l'eau pour voir comment ça se passe réellement, mais ce n'est pas le cas. Quoi.
Vous êtes consulté par la Fédération de pêche ?
Ah oui, on est beaucoup en contact avec la Fédération de pêche, avec les techniciens de la Fédération, justement pour au niveau des réglementations, des trucs comme ça. Là, quand on a eu cette histoire de ils ont fourni un peu des documentations pour qu'on puisse présenter aux gens. Non, la Fédération, elle s'occupe bien de nous. Nous, on a de la chance dans l'Isère, on a une Fédération qui tient bien la route pour le moment. Et on a beaucoup d'associations qui sont réciprocitaires. Donc quand on prend notre permis à Saint-Marcelin ou à Pont, on a le droit à pêcher dans toute l'Isère. Et c'est bien qu'on puisse avoir accès un peu à toutes les rivières. Ce n'est pas le cas partout. Hein. Vous allez en Ardèche, prendre une carte spécifique de l'Ardèche. Vous ne pouvez pas pêcher avec une carte d'ici. Voilà, il y a des départements comme ça qui ne sont pas dans cette réciprocité-là. Là, c'est quand même mieux qu'on puisse donner accès à tout le monde, à la pêche quand même, parce que bon, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde, quoi, là, du haut, je pense. Hein.
Forcément attraper du poisson, c'est toujours un plaisir.
Après c'est la balade au bord de l'eau. Moi souvent, je passe plus de temps à discuter avec les copains quand je viens là ou à faire des petits casse-croûtes avec les gars qu'à pêcher vraiment. Alors oui, j'aime bien la pêche, de temps en temps je m'y mets et vraiment je pêche, mais deux fois sur trois c'est plus pour rencontrer les copains, quoi. Voilà, on va dire ça, et de voir un peu les gens du coin. Là. Voilà, ça fait déjà 48 ans que je viens là ici.
Ah oui, d'accord. Et ce phénomène de no-kill, vous voyez ?
Alors, nous, on n'en a pas dans notre rivière, parce qu'on juge que ce n'est pas opportun. Il vaut mieux qu'on laisse le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent. Oui. Par contre, de se limiter et de faire des prélèvements raisonnés.
D'accord.
Voilà, okay. C'est ce qu'on conseille aux gens. Okay. Donc, on ne veut pas fermer tout, parce qu'il y a trop de réglementations qui sont trop restrictives. Et faire ça, c'est un peu mettre des menottes aux gens, quoi, je veux dire. Après, les gens aujourd'hui sont conscients que la rivière, elle est en souffrance un petit peu, donc qu'il faut faire attention, et ils ont pris conscience de ça. Alors, il y aura toujours quelques viandards qui feront des bêtises, mais je pense pas que le vrai pêcheur,
oui, il est raisonné.
Il est raisonné, il est raisonnable. On essaie de le faire. Voilà. C'est pas toujours facile, mais bon, voilà.
On précise ce qu'on appelle le no-kill, c'est une méthode de pêcher sans abîmer les poissons, c'est ça ?
C'est-à-dire d'attraper du poisson puis de le relâcher sans avoir le droit de le garder. Oui. Mais après, on peut se faire tomber dessus par des associations de protection de la nature qui vont dire vous vous amusez à faire souffrir du poisson et votre but, c'est pas de le garder pour le manger, c'est de le remettre à l'eau, c'est pas bien. Oui. Donc le no-kill,
c'est à double tranchant.
C'est à double tranchant. Oui, oui. Donc il vaut mieux être un prélèvement raisonné et raisonnable. Et au moins, on n'aura pas cette chose-là, quoi. On n'aura pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en nous disant, au lieu de pêcher en no-kill, vous ne pêchez plus du tout comme ça. Vous n'avez pas besoin de le remettre à l'eau, le poisson, vous le laissez tranquille. Quoi. Voilà, ça peut être aussi à double tranchant, le no-kill. Alors, bon, après, c'est une mode des jeunes aujourd'hui, ils veulent tous pêcher comme ça. Parce que souvent, dans les endroits où on pratique le no-kill, eh ben, il y a plus de poissons, mais c'est pas parce que la rivière se porte bien. C'est parce que des fois, on remet des poissons pour permettre aux gens de s'amuser à pêcher. Tout ça. Bon. Alors après, c'est une façon de gérer les choses. Nous, ce n'est pas notre optique pour le moment. Alors, je ne dis pas que ça ne viendra peut-être pas un jour. Pour moi, on n'a pas jugé opportun d'aller dans cette réglementation.
Bon, en attendant, la pêche est ouverte. On peut prendre sa carte aussi ?
Eh oui, bien sûr. Alors la carte, vous pouvez la prendre à la Gazette, chez nous, là. Ou alors sinon, il faut aller sur Internet, parce que maintenant, tout est dématérialisé. Et c'est comme pour tout. Hein. Mais seulement, il y a des gens quand même, des anciens, qui ne manipulent pas Internet, tout ça, qui ont du mal.
Oui.
Donc on a ces points de... Donc la Gazette et le Musée de l'eau est notre partenaire aussi pour les permis de pêche. C'est pour ça aussi qu'on a rendu un petit peu la monnaie et qu'on est présent aujourd'hui à cette journée internationale de l'eau. Là, voilà. Donc, voilà.
Il y a plusieurs tarifs pour les permis de pêche ?
Alors il y a plusieurs tarifs, oui. Alors le tarif général que tout le monde prend, beaucoup de pêcheurs prennent, c'est la carte complète avec le timbre de réciprocité qui est à 105 euros. Et après, si on veut, alors pour les gamins, c'est 6 euros, je crois, les petits, jusqu'à 12 ans. Après, de 12 à 20 ans, c'est 20 ou 25 euros. Et puis après, il y a les cartes découvertes femmes. Il y a plein de sortes de permis de pêche. Et il y a des permis journaliers aussi. Pour quelqu'un qui n'est pas du coin, qui viendrait là, qui voudrait pêcher une journée, il peut prendre un permis à la journée aussi. Voilà. Donc, il y a différentes sortes de permis. Et nous, on est les seuls utilisateurs de l'eau à payer quelque chose. Les gars du canoë, les gars du rafting, tout ça, ben eux, non, ils ne payent pas. Ça, je trouve, c'est pas tout à fait normal, ça. Ils sont utilisateurs de l'eau comme nous, hein, après tout. Hein,
voilà. C'est peut-être des nouveaux usagers, ça va peut-être se faire dans le temps, non ?
Ah, je sais pas.
Bon, en tout cas, bien...
Si ça servait à faire de la protection de la nature, ça serait bien. Mmh. Après, si c'est juste une question de ramener des finances à l'État, je ne trouve pas ça opportun.
Voilà. On parle de truites dans la Bourne, mais il y a d'autres poissons ?
Alors, il y a des petits verrons, qui sont souvent la nourriture de la truite, hein, les verrons, les truites les mangent, et il y a des chabots. Les chabots, c'est un petit poisson qui vit sous les cailloux, dont la truite se nourrit aussi, et qui est un signe d'une bonne santé de l'eau. Donc ces poissons, ils sont sensibles à la pollution et tout ça, et dans la Bourne, on en a un paquet.
Okay,
ça veut dire que l'eau, elle est quand même bonne. Hein, là, voilà,
ah, on ne peut pas bon dire signe, le contraire.
C'est bon signe, pour ça, c'est bon signe. Les insectes aquatiques aussi, les larves sous les pierres et tout ça, il y en a pas mal. Donc, la Bourne, elle se porte quand même bien. Il y a moins de poissons qu'avant, mais c'est pas encore vide, hein, non plus. Hein, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on fait plus de gros poissons que ce qu'on faisait dans le temps. Pas pourquoi.
La maille a augmenté, non ?
Non, pour le moment, la maille n'a pas augmenté. Mais alors, est-ce que les effets sont là ? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'on n'entend parler que de grosses truites. Hein, Antoine, c'est ça, hein, beaucoup. Hein, beaucoup.
C'est les années Covid qui ont fait qu'il y a eu peut-être moins de pêcheurs à un moment, qu'elles ont plus grossi.
Non, je ne sais pas. C'est tellement difficile de savoir ce qui se passe dans la nature. Antoine, ça fait 50 ans qu'il promène là, dans la rivière, moi 48 ans, et on ne sait pas tout. On ne sait pas tout.
Et vous remarquez qu'il y a des gros, comment on dit, des gros pavés.
On le voit, oui, parce que tous les copains qui pêchent, eh ben, souvent, j'avais fait une de 52, 55, j'en ai fait une de 60 l'année passée, il en a mesuré une de 71 cm là. C'est quand même énorme, hein.
Oui.
C'est incroyable. Hein. Les gens qui ne savent pas, ils ont même du mal à le croire. Si on leur fait voir les photos, ils croient, mais sinon, c'est étonnant quand même. C'est une très très belle rivière là. Il y a des poissons magnifiques.
En tout cas, elle semble bien se porter hein, aujourd'hui. Elle coule tranquillement.
Oui, là elle va bien la rivière. J'aimerais bien qu'on soit pareil dans 3 mois. Oui,
vous êtes un peu privilégié avec le château d'eau qu'on a au-dessus, là, le massif karstique.
On a de la chance, pourvu que ça dure. Ouais. Mais pour le moment, des rivières comme ça... Non, des rivières comme ça, j'ai fait... Pendant 10 ans, j'ai pratiqué les compétitions de pêche à la mouche. J'ai fait toutes les rivières de France, pratiquement. Et celle-ci, c'est la rivière de mon cœur. Hein.
Ouais.
C'est une belle, belle rivière. Il n'y en a pas beaucoup, des comme ça. Il y en a très peu. Alors voilà, on a la chance d'avoir ça. C'est un joyau, il faut... On le protège, voilà. Il faut espérer que ça va durer.
Alors vous dites qu'avant on pouvait pêcher les maisons suspendues ?
Oui.
Des gens vivaient de ça.
Ah oui, même ils en vivaient ?
Ah oui, c'est très vieux. Hein. On avait des grands cercles métalliques qui étaient suspendus là. Et derrière ce cercle métallique, il y avait un filet. Donc quand la rivière monte en creux, les truites elles se laissent descendre avec, au fil du courant, et eux, ils descendaient leurs anneaux métalliques, des gros trucs de 2 ou 3 mètres de diamètre.
2 mètres,
voilà. Et avec un filet derrière, et avec la corde, et de temps en temps, même, ils sentaient les truites. Ça tapait dans le filet derrière, tac, et hop, ils remontaient. Et ils pêchaient comme ça des maisons. Après, c'était plus une pêche pour eux. Hein, pour
j'avais manger, vu un écrit en mairie, la rivière était donnée pour 1 tonne de truites au kilomètre.
Oh, c'était énorme, à l'époque, oui, c'était...
Première rivière de France, hein, à un moment.
Ah, oui. La nature était autrement avant. Ben, bon, on était moins nombreux aussi. Hein,
c'est ça. Hein.
Là, aujourd'hui, le phénomène de la montagne avec le ski l'hiver et les randos l'été, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Ça inclut des pollutions, hein, pollutions organiques, hein, les gens qui vont aux toilettes, et l'eau qu'on prend au robinet, et les gens qui sont malades, les médicaments qu'on ingurgite, et qui repartent dans l'eau, et tout ça, ça fait
des effets.
Les
gens qui se baignent avec les crèmes solaires.
Et voilà. Après, y a des gens qui se baignent, il n'y en a quand même pas trop hein, chez nous. Hein. Un petit peu, mais c'est quand même rare, la bombe. C'est pas la Méditerranée, quand même.
Non.
Mais voilà, ça inclut des pollutions, hein, quand même. Hein.
Le sel, ça peut être aussi une pollution, le sel sur les routes.
Le sel sur les routes, c'était avant où ils en balançaient beaucoup, ça nuisait aux poissons, c'est sûr. Hein, c'est sûr.
Oui, mais...
Maintenant, ils ont fait des efforts, ils en mettent moins quand même.
Mais attends, avant qu'un cuisine était là, ils déversaient l'acide dans la bourne.
Hein.
Ouais. Et les truites, elles y étaient.
Ça manquait un peu de prise de conscience avant sur certaines choses.
Là, les poissons, ils ont aussi une grosse adaptation, hein, oui, ils s'adaptent. Hein, c'est pour ça qu'il y en a encore, hein, sinon il n'y en aurait plus. Hein. Voilà, donc... Mais bon, les effets de tout ramasser, enfin tous ensemble, tous les effets, ouais. ça fait du mal quand même, finalement. C'est pas neutre, hein. Voilà, c'est pas neutre, on va dire.
Est-ce qu'il y avait des pêcheurs professionnels aussi dans la Bourne?
Oui. Alors, au lac. Oui, mais il y a en 1900, pas.
Oui, j'imagine, oui.
Ah,
vous avez entendu parler des gens qui pêchaient professionnellement pour vendre au restaurant.
14, ça a duré jusqu'à hier 14.
Moi j'en ai entendu.
Mais ils pêchaient sur le lac là-bas et donc il fallait une autorisation du canal de la Bourne pour avoir un droit de pêche.
D'accord. Et donc ils pêchaient la journée, puis ils allaient vendre au restaurant ou
les gens qui descendaient en car, les chauffeurs de car, récupéraient les poissons pour distribuer au restaurant.
Ah bon?
Ah oui. Un peu tout le long de la Bourne.
On a livré du syndicat d'initiative de 1900 et quelques, et ils disaient qu'ils exportaient des truites.
Voilà. Il y en avait un paquet à l'époque.
Ils exportaient à Valence. Hein,
oui, bien sûr. Les gars de Chouange, comme le père Berger, il avait un bassin, il prenait des truites au filet ou à l'épervier, ils gardaient le maximum de truites qu'ils pouvaient vivantes dans leur bassin, et quand il y avait les restos qui leur passaient une commande, bah, ils les tuaient, ils les emballaient, et le car qui passait récupérait la commande et il livrait les restos tout le long. Là, quand il y avait un baptême, un mariage, et ben souvent, il y avait une truite chacun hein, au resto. Hein. C'était ça.
Ouais. Là, si vous regardez où il y a le balcon en bois, c'était un restaurant.
Ah bon?
Et oui, mais je parle en 1900. Et donc, ils avaient leur filet. Et en bas, il y a des portes, on va dans l'eau. Ah, oui. Donc, il y avait un grillage. Et les truites qu'ils prenaient en trop, ils les gardaient là.
Ah.
Pour le restaurant.
Oui, ça fait un garde-manger.
C'était pas la rivière.
Hein?
C'était pas la rivière.
Non. Ah oui, c'est ça, elle restait. Ah, c'est malin. Mais cette porte, c'est.
Impact carbone zéro.
Ah, ouais. Mais c'était pas sa fonction première, cette porte, pour faire entrer les truites ici?
Ben si, parce que je vois pas l'utilité qu'elle peut avoir.
Oui, c'est ça. Oui.
Il y a deux portes.
Ah oui, d'accord. Okay. Ah, c'est malin, ça.
Ouais.
Les pêcheurs. Il était aussi malin que les truites. Hein.
Le restaurant, il descendait son filet, tac, les truites dans la poêle.
Ah non, c'est pratique, effectivement.
C'est une ressource hein, pour les gens d'ici.
C'est
un revenu pour les gens d'ici, la pêche.
Ben, un revenu, puis effectivement, on pouvait manger tous les jours quand même.
Oui, ils pouvaient manger les truites souvent. Mais, mon prédécesseur à la PPMA, Louis-François, il est resté 38 ans à la PPMA. Ça ne s'appelait pas comme ça avant. Il doublait sa journée de travail en salaire en allant à la pêche le matin de 6h à 7h. Avant d'aller au boulot.
D'accord, c'est rigolo ça. En une heure, il faisait l'équivalent de la journée qu'il
essayait. C'est l'équivalent de son salaire de la journée.
Et une des plus grosses qu'on ait en photo, c'est 6 kilos.
6 kilos. Ça représente presque une truite d'un mètre à peu près.
Le gars, il la tient comme ça, et la queue touche par terre.
C'est le record de la Bourne, ça ? 6 kilos, non ? Bon, peut-être pas 6 kilos.
C'est exceptionnel, très très. C'est rarissime même. Ouais. C'est un poisson qui est vieux de 10 ans, 10, 15 ans. Ça vit pas très vieux dans la rivière, les poissons, les truites en particulier. Quand ça vit 10 ans, c'est un maximum. Les contraintes sont fortes dans les milieux naturels. Les poissons qui durent longtemps sont très rares.
Et il y a des secteurs pour pêcher les plus grosses ou ça peut être n'importe où ?
Ah non, c'est pas n'importe où. Hein. Il y a des secteurs où là où la rivière est le plus large, c'est là où il y a les plus grosses.
D'accord, forcément. Pas forcément plus profonde.
Plus large et plus profonde aussi, mais c'est une question de dimension, de section de rivière. Dans les petits ruisseaux, il n'y a pas de grosses truites. C'est pas, le ruisseau ne les fabrique pas. Dans les petits ruisseaux, les truites de 20 cm, elles ont le même âge qu'une truite de 50 cm ici.
Ah oui, okay. Mais sur le secteur de la Bourne, il y a des endroits privilégiés pour pêcher les grosses ou ça peut être...
Oh, c'est ici, c'est la basse Bourne, le Pontant-Royan descendant jusqu'à l'Isère. Ouais.
Okay. Ouais. Pas forcément dans les gorges.
Non, ça ne produit pas des gros poissons les gorges. Ça arrive, on en trouve des belles, mais ça ne produit pas des gros poissons les gorges. C'est beaucoup plus difficile de survivre dans les gorges. Oui. Il y a moins de nourriture, il y a plus de courant. Les contraintes sont dures pour les poissons. Alors qu'ici, c'est quand même la Côte d'Azur pour les poissons. C'est large. Même s'il y a des crues, elles ont de la place pour se reprendre. Alors que dans les gorges, quand ça crache fort, ça balaye tout, quoi. Ça arrache tout. Il n'y a plus âme qui vive. Hein.
En 1996 ou en 2003, ça fait du nettoyage. Hein.
C'est la nature, hein, c'est comme ça. Hein. Mais en même temps, il peut y avoir des événements climatiques dévastateurs, mais la nature, elle reprend très vite tout dessus. On s'en aperçoit un peu partout où il y a des grandes crues. Les poissons reviennent assez rapidement, même s'il y a eu beaucoup de dégâts au début.
C'est très résilient tout ça.
Complètement, ouais, très fort.
Elle était plus loin que le portail vert.
Vous dites hein.
En 96, derrière vous, il y a un portail vert, elle était plus loin que là-bas.
Ah oui. Des fois, ça arrive qu'on voit les tables de pique-nique qui sont presque dans l'eau.
Eh ben c'est ça, ouais. La flotte, elle est arrivée au niveau des volets rouges, là-bas, les premiers qui viennent dans l'eau. Sur les quais, là.
La limite de plus, là, c'est le haut de la voûte. En 48, ça arrive...
Le haut de la voûte, là.
Le haut de la voûte, c'est là.
En 96, elle est arrivée là.
Ouais.
On a un film là-dessus, en 96, ouais.
Et ça faisait un moment que
je n'avais
pas revu autant.
Ça impressionne. Tout ce qui est au niveau de notre regard, là, c'était tout dans l'eau, ça. Donc le sous-sol de l'usine, c'était tout dans l'eau. Ils y stockaient du bazar dans l'usine, là, et c'était tout inondé. Alors au fil du temps, ils avaient pris l'habitude et ils stockaient que ce qu'ils craignaient pas. Et ce qu'ils craignaient, ils le mettaient sur cale, assez haut perché, pour que ça ne prenne pas l'eau à faveur des crues.
J'ai vu une vidéo où les ouvriers le matin, ils ramassent les truites par terre.
Avant de se mettre au boulot sans poste.
C'était un truc qu'ils avaient fait pour une vidéo.
Avant d'aller fabriquer les douilles.
Ils avaient versé par terre.
Sur la façade, là, il y avait une vanne qui servait à vidanger le bâtiment après les crues. Elle a été occultée, cette vanne, elle a disparu. Il n'y a pas très longtemps, quand ils ont refait le musée, tout ça. Ouais.
Regarde les petits. Oh là là. T'as vu les ombres là ? C'est toi qui as pêché ça ?
Ouais, ça.
D'accord.
Une grosse truite. J'en ai pêché une deuxième, mais elle était 26 juste là-bas sur les quais.
Mais où est-ce que t'as pêché ça ?
Sur les quais. Là, ici sur les quais.
D'accord, presque en plein centre-ville, ouais. T'as pêché le poisson. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est comme truite ?
Truite fario. Ah. 38 la grosse et 26 la petite.
Malaise. Donc c'est une bonne année à pêche ça.
On va aller voir les ombres.
Ah, on va aller voir les ombres. On va se mettre à l'ombre. Vous avez repéré quelque chose ici ?
Je les vois pas là. Hein, il m'a dit qu'il les a vus tout à l'heure, mais l'ombre, ça porte son nom. Hein.
Ah oui.
Souvent on les repère parce qu'on voit l'ombre au fond.
Ah oui. Ok, c'est pour ça que ça s'appelle ombre. Ah oui.
Peut-être, je ne sais pas si c'est.
Il y en a un là-bas.
Tu en vois un toi ?
Bah là, tout à l'heure, j'avais vu un.
Déjà les truites, vous les repérez des fois un peu à l'œil ?
Bon, ah, oui. Vous aussi. Les voir. Ouais. Et normalement un poisson vu n'est pas un poisson pris. Si nous a vu.
Si nous a vu, c'est des fois un peu. C'est un peu trop tard.
Ah. Ouais.
avait été plat, ça a été
plat. On a vu les effarouchés, peut-être.
C'est drôle parce que malgré l'agitation, même des fois l'été, on a qui s'agite, ça baigne, ça joue. Ouais. Et les truites, elles restent quand même ou elles vont un peu plus loin?
Oh, elles s'éloignent un peu, mais elles reviennent. Puis elles sont curieuses quand il y a sa pâteau, je viens voir après ce qui se passe. Okay. Parce qu'on brasse le fond, on soulève des petits insectes.
Des insectes.
Non, ça les effarouche un peu sur le moment, mais elles reviennent.
Oui, c'est pas quelque chose de problématique.
Non, c'est pas problématique du tout. Non. Ouais, elles aiment bien venir voir après quand on sort de l'eau.
A priori, on en voit un.
Ah oui.
Il
s'est déplacé. Vous l'avez vu l'ombre?
Oui.
Il revient vers nous.
Là, il est magnifique. Là, ils sont plusieurs. Deux.
Il y en a un. Trois. Deux, trois.
Trois et un derrière. Quatre.
Tain, mais ils se déplacent. Alors, du coup, c'est pas facile à les voir. Mais on les voit.
Oui, tout à fait.
Bon, c'est dommage, à la radio, vous ne pourrez pas leur faire voir. Hein.
Ouais, on entend les...
mettre le micro dans la feuille.
Oui,
interviewer les
maisons. Bon, elle est pleine d'oxygène, là, c'est bon.
Bon, on pourrait dire que vous avez eu de la chance, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on les voit comme ça.
Là-dessus, vernis,
Vernis.
Avec les canards à côté qui pataugent très tranquillement.
Ils font bon ménage.
T'as vu, c'est les gamins qui nous ont fait la leçon.
Ça se renouvelle un petit peu dans les générations à la pêche.
Ouais, un petit peu, tout doucement, ça vient, oui.
C'est la baisse des effectifs, comme globalement, on est en voie de disparition. Il y a quasiment plus de pêcheurs par rapport à ce que c'était.
On est à les 30% de ce qu'on était avant sur la rivière, au niveau des permis, tout ça.
C'est peut-être la raison pour laquelle il y a plus de grosses truites maintenant, si c'est moins pêché?
Non, je crois pas qu'il y ait de corrélation. Non. Je crois que c'est plutôt le contraire, même. Quand il y avait beaucoup de pêcheurs, ça soutenait la rivière, ça stimulait le système. C'est un débat entre nous, ça. On n'est pas tous d'accord là-dessus.
Oui, c'est les avis sont partagés. Il y a des poissons, on en voit.
On va remplir la rivière et les poissons, ça va déborder.
Merci beaucoup Bernard, merci Antoine, et puis merci à ceux qui sont adhérents de la PPMA pour cette journée. Et puis il fait beau, c'est agréable.
On a de la chance. On a une journée, c'est vraiment le début du printemps, mais vraiment à fond là. Impeccable.
Bon, à très bientôt.
Merci. Bon,